que j'ai choisi de vous présenter dans ce cadre-là, c'est une propriété des polymères, une propriété particulière qui est importante, la résistance au choc, et de montrer comment, en s'appuyant sur la science des polymères qui est par essence très pluridisciplinaire, et je vais essayer de vous donner une petite vision de ça au travers de la présentation, et bien de montrer que l'on peut non seulement comprendre des comportements macroscopiques, l'objet que vous laissez tomber et qui se casse, c'est un comportement macroscopique, bien sûr, en fonction de choses qui sont les mouvements relatifs des atomes dans cette chaîne de polymères, c'est-à-dire on ne peut pas plus moléculaire. Donc c'est vraiment le grand saut du moléculaire au macroscopique. Et s'il reste quelques secondes, je vous montrerai comment on peut aussi l'utiliser pour dessiner de nouveaux systèmes qui marchent. Donc, la résistance au choc, c'est une propriété critique pour les applications, je viens de le dire. La préoccupation de tout temps, ça a été de prédire ces comportements, de remédier, bien sûr, à la fragilité de ces matériaux. Et l'approche moléculaire que je vais vous décrire, elle est basée sur un... Mais ma présentation est basée sur un bouquin qui vient de sortir très récemment, en novembre 2005, et où le principal auteur était Lucien Monric. J'ai tiré de sa retraite pour collaborer avec moi à écrire ce papier d'environ 300 pages ou quelque chose comme ça, et qui résume cette démarche. Donc, de quoi vais-je vous parler? D'abord, la caractérisation de la résistance à la rupture, en deux mots, avec des grandeurs d'ingénieurs pour caractériser ses propriétés. Ensuite, dans un second temps, ce qu'est, au travers de ce que j'appelle la dynamique des chaînes macromoléculaires, quelques points de repère sur le moléculaire. Et puis ensuite, je vais dérouler en 3 et 4 la relation avec les propriétés moléculaires. Et puis en 5, quelques petits remèdes où vous allez retrouver, si vous avez été très attentif ce matin, un certain nombre de choses qu'on vous a dites, en particulier à propos des réseaux hybrides. Vous verrez tout ça. Bon, la propriété macroscopique, c'est la résistance au choc. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Ça se fait même quand on est chimiste comme moi, même quand on est polymériste. Eh bien, la moindre des choses, quand on veut faire des essais mécaniques, c'est de les faire dans des conditions significatives. Et donc, il y a des standards qui ont été établis un peu laborieusement dans le cas des polymères. C'est plus difficile à faire des mesures significatives avec des polymères qu'avec des métaux. Donc, il y a un standard qui existe. La moindre des choses, c'est de le respecter. Et puis, ce dont on est... ce qui est une contrainte importante sur ces essais où vous voyez dans les échantillons, il y a une pré-entaille et puis il y a une fine entaille. Cette fine entaille, la voilà dans un cliché de microscopie optique. Plus elle est pointue, plus l'essai est significatif. Si je veux artificiellement promouvoir de la résistance au choc, il suffit d'avoir une entaille très émoussée et puis de toute façon, on aura l'impression que le matériau est résistant, alors qu'il ne l'est pas. Donc, une condition, c'est vraiment d'avoir une très forte concentration de contraintes en tête d'entaille. Et si on se place dans ces bonnes conditions, eh bien, la fissuration, elle se fera, comme vous le voyez ici. Là, c'était l'endroit de la pré-entaille. Et vous voyez que vous avez l'échelle ici, vous ne voyez sans doute pas, c'est un micron. Le petit trait, donc on a suivi sur une vingtaine de microns la propagation de cette fissure, et tout ça est tout à fait sympathique. Alors, pourquoi cette fissure, elle se propage, et donc pourquoi on a rupture de ces matériaux? Quand on est, comme dans ce schéma, dans le cas d'un polymère amorphe, l'idée c'est que la fissure, qui est finalement un vide, eh bien elle est précédée d'une zone qu'on appelle craquelure, dans laquelle vous apercevez qu'il y a des chaînes. Autrement dit, ce ne sont pas que des trous en tête, c'est ce qui est représenté là. Il y a de la matière qui traverse, il y a des petits trous qui sont là, et puis après, évidemment, il y a la fissure. Et ça, c'est un schéma Ça, c'est la réalité que l'on observe entre les parties blanches et de la microscopie électronique. Dans cette craquelure, vous voyez qu'il y a à la fois des trous et de la matière. Donc, une structure bien particulière où nos chaînes, dont on, je le redirai tout à l'heure, elles sont organisées en plats de spaghettis dans le matériau massif. Quand elles sont dans les zones fibrillaires ici, elles sont plus ou moins étirées. Et quand elles sont incapables de s'étirer encore plus, eh bien, elles se brisent en deux. On a passage de la craquelure à la fissure par rupture de chaîne. Et c'est exactement ce qu'on voit dans les polymères amorphes. Dans les polymères semi-cristallins, c'est un peu plus compliqué parce qu'un polymère cristallin, ça a des zones organisées et des zones plats de spaghettis. Quand la fissure avance, la craquelure avance, c'est essentiellement les zones amorphes qui sont touchées avant qu'on ait une rupture qui, de toute façon, se fait, comme tout à l'heure, au niveau des zones amorphes. Autrement dit, ce matériau polymère, il va intervenir déjà à l'échelle de ces objets. Et dans ces matériaux semi-cristallins, c'est comme quand il y a une fissure qui se développe dans un mur que vous avez mal construit avec des parpaings, eh bien, la rupture, elle suit les endroits de moindre résistance. C'est les joints dans votre mur de parpaing. Ici, c'est les zones intersphérolytiques. Donc, ça, c'est conceptuellement, ça ne pose pas de grands problèmes. La détermination, je vais surtout à cette heure-là vous faire l'économie de tout ça, mais c'est basé sur deux grandeurs. La première, qu'on appelle K1C, c'est une intensification de contraintes critiques, d'où le C. Et le 1, ça veut dire en mode 1, qui est le mode que je vous ai montré d'ouverture de fissure. Et cette quantité, donc, qui est ce qu'il faut que vous en reteniez, c'est qu'elle est représentative de la fragilité de votre matériau. Si c'est plus petit dans un polymère, qu'à peu près 1,5 MPa racine de mètre, on appelle ce polymère fragile. Et puis, si c'est plus grand que 2,5, alors vous voyez, ce n'est pas très logique, ça ne se recoupe pas exactement. J'ai laissé un gap où on ne saurait pas trop ce qu'est le matériau. Mais en tout cas, au-dessus de 2,5, il est résistant au choc. Et sur mes essais de tout à l'heure, eh ben, il y a l'effort que l'on applique pour déformer la poutre. Il y a le déplacement qui correspond, et puis le moment où ça casse, où il n'y a plus de filament, eh bien, j'ai rupture fragile. Et vous voyez que les ingrédients qui rentrent dans K1C, outre des facteurs géométriques triviaux, c'est la charge maximum que j'ai appliquée pour la rupture. Si cette grandeur d'ingénieur, elle ne vous plaît pas, vous avez le droit de dire la rupture, ça peut aussi se traiter en matière d'énergie, et à ce moment-là, vous définissez une énergie de surface critique toujours en mode 1 dans le cas qui nous intéresse, et ce n'est pas bien grave que vous utilisiez le calcul en énergie plutôt que le cas, puisque la mécanique nous enseigne que ces deux grandeurs, elles sont liées par l'intermédiaire du module de Young et du coefficient de Poisson du matériau. Moi, dans la suite, je vais uniquement vous parlez de K1C, mais je pourrais faire la conférence jumelle en parlant uniquement de G1C, ça ne changerait rien. Deuxième partie, pour essayer de comprendre après ces propriétés, quelques rappels sur ce que j'ai appelé la dynamique des chaînes polymères, donc, c'est-à-dire les aspects de mobilité moléculaire. Cette mobilité moléculaire, elle peut être thermoactivée, c'est l'effet du mouvement brownien, ou bien elle peut être induite par la contrainte mécanique que je mets à la disposition du matériau. Et alors, ce dont je voudrais vous convaincre, c'est un des mots-clés de ce matin dans la première conférence, c'est que ces mouvements moléculaires, eh bien, d'une certaine façon, ils sont hiérarchisés, c'est ça dont je voudrais vous convaincre. Ils interviennent à des températures variables en mettant en jeu des échelles de taille variables. Et alors, du plus local au plus général, on va des relaxations secondaires à la transition vitreuse et puis à l'écoulement de la chaîne entière. Donc, très brièvement, je vais vous donner quelques petites idées là-dessus. premier type de mouvement, celui que tous les chimistes connaissent, même s'ils ont oublié les polymères, c'est par exemple la transition chaise-chaise d'un groupe cycloexyle. Ça demande très peu d'énergie. Alors des fois, en chimie organique, on parle aussi de transition chaise-bateau. Les polyméristes, ils n'aiment pas la forme bateau, et donc ils font un mouvement de chaise à chaise, où vous voyez que si la liaison là, je la laisse invariante, eh bien mon système, il peut faire un mouvement où il était de cet état, un mouvement où il va basculer vers le bas pour se retrouver dans cet état. Donc ça, c'est un mouvement local qu'on sait voir, par exemple, par analyse dynamique, par exemple par diélectrique, voire par RMN, et quelle que soit la structure du polymère qu'on prend, dès qu'on a ce groupe cycloexyle, ici c'est un polyméthacrylate, vous avez cette relaxation vers moins 100 degrés, ici c'est un copolymère plus compliqué, vous avez encore ce groupe, vous avez, dès qu'il y a suffisamment de cette entité-là, vous avez cette relaxation vers moins 100 degrés. Donc, ça, c'est le mouvement le plus local qu'on puisse imaginer. Alors, vous pouvez aussi profiter de l'ARMN. Ici, c'est de l'ARMN du carbone 13 sur le polymère solide. En vous intéressant au ray associé au cycloexyle que j'ai repéré là, eh bien, lorsque la structure fine est bien observée, et on montrerait facilement qu'il y a trois raies, ce qu'on a à basse température, en dessous de cette transition, le spectre est résolu. Lorsque je suis dans une région où, à coup sûr, il y a le mouvement de ce cycloexyle, eh bien, vous voyez que l'affaire se gâte, j'ai plus qu'une espèce d'enveloppe mal définie que je saurais éventuellement décomposer. Donc, le charme de l'ARMN par rapport aux techniques de caractérisation, c'est qu'elle sait dire qui bouge à l'intérieur de la structure. Et si on travaille sur une gamme de fréquences élevées ou de temps de mouvement, on trouve une loi qui est une loi de l'état activé avec une énergie d'activation, une loi en 1 sur T, donc le log du temps ou son inverse de la fréquence varie comme 1 sur T. L'énergie d'activation, elle est modeste, c'est un processus local, à peu près 25 kJ. Ce qui peut bouger aussi, c'est toujours des relaxations secondaires, c'est la présence d'un groupe latéral sur un polymère, un groupe latéral encombré. Alors je reprends l'exemple du polymère que je vous ai montré tout à l'heure, où je regardais bouger à basse température ces cycloexyles. Ici, je regarde la rotation de tout le groupement ester. Alors, si je le fais en mécanique, je peux le faire, c'est ce pic-là. Mais je vais être ennuyé par la relaxation gamma de tout à l'heure. Si je le fais en diélectrique, l'analyse diélectrique, c'est sensible qu'à la présence de dipôles, donc la seule chose que je verrai, ce sont les groupes latéraux, et à ce moment-là, vous voyez que sur les mêmes polymères, j'ai des spectres parfaitement propres, avec une relaxation secondaire que j'appelle bêta maintenant, à un peu plus haute température et bien évidemment avec une énergie d'activation plus grande qui serait de l'ordre de 60 kJ. Donc ça, deuxième type. Troisième type maintenant, il y a des polymères que l'on connaît qui n'ont pas de groupes latéraux, par exemple le polychlorure de vinyle, et pourtant vous voyez qu'il y a une très grande relaxation secondaire. Pourquoi ? Parce qu'on peut dépenser de l'énergie dans des mouvements moléculaires en faisant des changements locaux de conformation de votre squelette. En noir, j'ai mis les portions de chaînes polymères qui ne sont pas infectées. Et puis, vous voyez que j'ai cette petite transition de la position bleue à la position rouge. Je mets en jeu trois liaisons pour faire donc ce mouvement à trois liaisons. Je ne peux pas avoir de mouvement plus locaux que ça, mais je peux en avoir avec des portées plus grandes. Ici, il y a quatre. J'aurais pu imaginer un mouvement de type vilebrequin qui aurait une portée plus grande. Et puis finalement, j'ai bien des processus arrhéniens, mais le pic, il est très large Parce que, ben, à chaque taille caractéristique va correspondre une énergie d'activation différente. Si la taille caractéristique est tout petite, l'énergie d'activation est faible, c'est-à-dire que la dépendance de cette relaxation en fonction de la fréquence est grande. Si au contraire la portée est grande, l'énergie d'activation est grande et donc la dépendance en fréquence est faible. Ça, c'est ce premier type de mouvement. Et là encore, ces mouvements, peut-être j'en ai passé deux d'un coup, non. Ces mouvements, ils peuvent présenter un caractère coopératif. J'ai choisi là d'utiliser à nouveau l'ARMN, peu importe, ce n'est pas la même technique, c'est de l'ARMN à deux dimensions ici. L'idée, c'est que si je prends le polymère que je vous ai montré tout à l'heure à basse température, je n'ai pas de mouvement de relaxation secondaire. Ici, ce sont les déplacements chimiques dans une direction, là, dans la direction orthogonale. Si je n'ai pas de mouvement, normalement, tout devrait se trouver suivant la bisectrice. Et vous voyez que c'est à peu près le cas, à du bruit près. Au contraire, si je vais à 60 degrés, la mécanique m'a montré que je suis au-dessus de la relaxation. Là, vous voyez que les positions varient parce que j'ai, en quelque sorte, le signal est brouillé par la mobilité moléculaire. Et si je compare ce spectre expérimental, si je veux en rendre compte en faisant de la simulation, vous voyez que le résultat de la simulation, c'est ça, la figure obtenue n'est pas si différente de la figure expérimentale, eh bien ça me dit, j'ai un phénomène de rotation de mon groupe ester, et puis en même temps, j'ai de la torsion de la chaîne principale. Donc le mouvement, c'est le même, c'est la combinaison en fait des deux précédents que je vous avais montrés, les mouvements de squelette et les mouvements de rotation du groupe latéral. Et on peut bien imaginer qu'ils sont couplés. Peut-être que pour que j'ai les oscillations, il faut que mes conformations de chaîne soient comme il faut, ainsi de suite. Alors, une description thermodynamique de ces mouvements, je ne vais sûrement pas vous ennuyer avec ça maintenant, mais ça met en jeu simplement une contribution anthropique. Le second type de mouvement qui est très important dans les polymères, c'est le mouvement de transition vitreuse. Et pour vous en convaincre, ce que j'ai choisi de vous montrer, c'est l'évolution du module Young en fonction de la température. Vous voyez, un polymère, ce n'est pas très costaud. Son module à basse température, c'est simplement 1 gigapascal. Tout à l'heure, on a parlé à propos des nanotubes de carbone de 1 terapascal, donc 3 ordres de grandeur de plus. Les polymères, ce n'est pas terrible, mais en plus, ça se casse la figure dans une certaine gamme de température, et ça se casse la figure de 3 décades supplémentaires, celle où interviennent les mouvements de transition vitreuse. Donc, si vous analysez ça en termes d'état du matériau, la transition vitreuse qui dépend de la masse molaire de vos polymères, c'est la frontière qui vous fait passer d'un solide vitreux à un liquide, avec éventuellement un intermédiaire qui est cet état caoutchoutique dont je vais reparler juste dans une seconde. Donc ça, c'est mécaniquement la propriété de base et ça correspond donc à des mouvements qui satisfont ce que l'on appelle dans les polymères l'équivalence en température, c'est-à-dire que je fasse varier mes températures d'observation ou que je fasse varier mes temps d'observation, j'aurai des réponses qui sont également acceptables et compréhensibles. Ce qui se traduit par des courbes maîtresses. Bon, vous avez fait des mesures de modules, c'est ce que vous avez là, à différentes fréquences, l'axe des abscisses c'est la fréquence, et puis à différentes températures, vous avez tout un tas de comportements apparemment différents. Vous voyez bien que si vous vous amusez à un petit jeu de glissement des courbes les unes par rapport aux autres, vous arriverez à une courbe globale de comportement qui va vous traduire exactement la traversée de la transition vitreuse. Donc, j'ai joué sur la fréquence, j'ai joué sur la température et j'ai mis une équivalence entre les deux. Et ça, c'est ce que les gens des polymères aiment bien appeler la loi WLF. Notez simplement que sa forme n'est plus celle d'une barrière d'activation, comme dans les lois d'Arrhenius, c'est un autre comportement. OK ? Alors, bien sûr, il y a des théories pour ça. Le message le plus important avant de rentrer dans ces théories, c'est probablement le fait que cette transition vitreuse, c'est une transition cinétique, c'est-à-dire que la réponse, c'était sur le transparent déjà d'avant, dépend du temps que vous accordez aux chaînes pour s'arranger. Alors, ici, par exemple, si je démarre à haute température et que je refroidis, eh bien, vous voyez que la température à laquelle j'aurai cette rupture de pente sur l'inverse de la masse volumique, ben, ce n'est pas la même suivant la vitesse. Et cette rupture de pente, c'est la transition vitreuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, je suis dans un état vitreux hors de l'état d'équilibre. J'ai un très faible volume libre qui ne me permet pas de faire des mouvements de grande ampleur. Au-dessus de ce qui est l'ATG, je développe progressivement du volume libre. Et donc, le changement macroscopique de masse volumique, d'inverse de masse volumique, eh bien, l'attribue uniquement au volume libre dans ce genre d'approche. Je peux aussi rendre compte du fait que j'ai à haute température une courbe d'équilibre, après passage de l'ATG, un état hors d'équilibre, juste en disant ben, l'état vitreux, c'est pour ces chaînes de polymères une différence d'état conformationnel, donc c'est de la mobilité. J'ai une forme de basse énergie, par exemple une forme gauche pour ces chaînes, elles peuvent prendre une forme de haute énergie. Ben, si je suis à haute température, par exemple à cette température T1, je peuple l'état haute énergie puisque la quantité KT1 que j'apporte est grande. Si au contraire je suis à TG ou en dessous de TG, j'apporte une toute petite énergie. Donc le système il s'est rééquilibré en abandonnant ces conformations d'haute énergie. C'est un modèle thermodynamique à deux états tout bête. Et moyennant quoi, donc, je comprends que dans un polymère, l'état vitreux, ce n'est pas l'état vitreux d'une verre à vitre qui est amorphe à défaut d'être cristalline. Ici, c'est une affaire de conformation, comme toujours dans les polymères, donc d'absence de mobilité moléculaire. Je serai au-dessus de TG aussi longtemps que les mouvements à l'échelle des 15 segments dont j'ai besoin pour passer la transition, eh ben, ils auront lieu. Et puis, je voulais vous montrer un peu la variété de ce qu'on peut faire. Eh bien, on peut aussi faire de la simulation moléculaire de ces mouvements. Vous apercevez ici une maille de carbone de type graphite. Ça, c'est parfait parce que je peux m'amuser à dessiner le cheminement d'une chaîne de polymère avec plein de segments le long de ça. Donc, on peut faire de la simulation donc, de ces mouvements. Et ce que l'on va voir, c'est que pour des temps de simulation courts, alors je ne rentre pas dans ces détails, mais ce que j'ai repéré par des petits domaines, c'est les régions où j'ai vu qu'à l'échelle de temps de comptage, quand je laisse ma chaîne se rééquilibrer, j'ai eu des mouvements moléculaires. Les autres, il n'y en a pas eu. Et ce que je vois, c'est qu'il y a comme un effet de percolation qui se développe à partir d'un certain temps. Dès que j'ai atteint un volume libre critique, j'ai ce volume où en remplaçant ce segment par l'autre, ainsi de suite, je peux faire des mouvements, eh bien, je vais avoir du volume libre qui va se développer. Donc, je vais balayer ma courbe de tout à l'heure. Et puis, la troisième chose dont j'ai besoin, c'est le rôle des enchevêtrements. Les enchevêtrements, c'est ce que l'expérience de tous les jours vous apprend en regardant un plat de spaghettis. Dans ce plat de spaghettis, eh bien, à coup sûr, j'ai des segments qui sont enchevêtrés. C'est-à-dire que si je tire sur un, eh bien, y en a d'autres qui suivront. Et même, l'expérience me prouve que si je suis très méticuleux et que je tire très doucement, ben, il y en aura moins qui suivront. Autrement dit, c'est bien un phénomène qui est lié à de la coopérativité de mouvements moléculaires, encore une fois, pour faire savant dans les polymères, que l'on raconte organisés dans des pelotes statistiques, eh bien, il y a interpénétration de ces pelotes. Voilà. Alors ça permet de déterminer une densité d'enchevêtrement. C'est le nombre d'enchevêtrements que vous avez dans l'unité de volume, tout simplement. Et alors ça a une signature, ces enchevêtrements. C'est le plateau caoutchoutique dont je vous ai parlé tout à l'heure, en regardant l'évolution du module en fonction de la température. Ce plateau caoutchoutique, il est fonction de quantités que l'on sait mesurer, qui sont le nombre de segments de chaîne que j'ai entre deux points d'enchevêtrement. C'était le schéma de tout à l'heure. Deux chaînes différentes, cette chaîne-là, je peux l'imaginer enchevêtrée dans les autres. Ça, c'est des contraintes topologiques que les autres imposent. Il y a un certain nombre de segments statistiquement entre deux points d'enchevêtrement. Eh bien, il y a des théories qui nous permettent de rendre compte de la valeur du module, grandeur macroscopique, encore une fois, en fonction du nombre de liaisons entre deux points d'enchevêtrement, grandeur microscopique, ou si vous préfériez, de ce facteur C infini, qui est un indice de rigidité de vos chaînes. Bon. Donc on peut voir ces effets d'enchevêtrement comme ça, on peut les voir au travers d'écoulements. Alors je vais me placer en régime newtonien parce que c'est plus simple. Donc la viscosité est constante quel que soit le gradient de cisaillement. Vous voyez qu'une pelote de polymère, elle se déforme dans ce champ qui est un champ linéaire. Votre particule, votre pelote de polymère, elle se déforme, elle s'oriente, ça mange de l'énergie, et la viscosité, bah, c'est la résistance à cette déformation. Bon, tout va bien. Et cette viscosité, quand elle est newtonienne, eh bien, elle présente une particularité, c'est de dépendre de la longueur des chaînes, suivant que les chaînes sont enchevêtrées quand elles sont longues ou ne sont pas enchevêtrées quand elles sont courtes. Et il y a d'excellents modèles qui permettent de rendre compte de ce comportement des chaînes non enchevêtrées. C'est ce qu'on appelle le modèle du chapelet à ressort, ou bien de chaînes enchevêtrées, encore. Et je ne résiste pas à citer ici tout le travail qui a été fait par De Gène autour de cette modélisation de la reptation. Une chaîne de polymère, quand elle est enchevêtrée, vous la voyez là, elle est empêtrée à l'intérieur d'un tube qui représente tous les contraintes topologiques que lui imposent ses voisines. Elle a une densité curviligne de segments qui n'est pas tout à fait constante, et donc elle va pouvoir s'échapper un petit peu de son tube. Ici elle est dans la position initiale, ici elle sort du tube vers la droite, donc par des mouvements qui sont des mouvements de reptation, parce que c'est comme des mouvements de serpent. Simplement, dans cette théorie de De Gène, ce serpent, il aurait ni queue ni tête, si je peux dire, en ce sens qu'il peut aussi bien fonctionner en marche avant qu'en marche arrière. Ici, vous avez un schéma où il évolue par la droite, là, vous avez un schéma où il évolue par la gauche. Peu importe, ça vous rend compte très proprement de l'évolution de la viscosité. Donc, on a tout pour comprendre cette hiérarchisation des mouvements moléculaires entre les transitions secondaires, la transition vitreuse, le réseau d'enchevêtrement. Alors, vous allez me dire, pourquoi ils s'amusent à nous faire cette espèce de cours de polymère incongru, là, en donnant à toute allure un certain nombre de concepts? Parce que je n'ai pas oublié mon objectif, la rupture de mes chaînes, mais tous ces ingrédients, vous allez voir que si je veux comprendre, j'en ai besoin. Alors, le premier ingrédient naturel, c'est de dire, donc, mon descripteur de la fragilité ou de la ductilité, c'est qu'un C que je mets en ordonnée, je le reporte en fonction de la densité d'enchevêtrement. Le nombre d'enchevêtrements par unité de volume ou bien la racine carrée de ce nombre d'enchevêtrements par unité de volume. Et je compare un nombre phénoménal de polymères pour, au risque de parler de façon triviale, je dirais ici, on n'hésite pas, on compare des ânes, des cochons, des girafes, des dromadaires, tout ce qu'on veut, des composés qui se ressemblent aussi peu qu'un polystyrène qui est amorphe, un polyéthylène terephthalate, et on le reporte en fonction de ça. Et peu importe la grandeur que l'on voit, ce que l'on voit, c'est qu'on sort des corrélations qui sont raisonnables, et moi j'en tire simplement la conclusion, sans discuter tel ou tel de ces modèles, que sûrement les enchevêtrements jouent un rôle très important, mais peut-être pas le seul, sur ces propriétés de fracture. Et puis, si je prends un système, comme je les aime bien, de copolymères, dans lesquels je varie progressivement les propriétés, ce que je vois, c'est que ça soit l'une ou l'autre de ces corrélations, dans ces polymères qui sont extrêmement rigides, parce que ce cycle-là, il est très rigidifiant, eh bien, les relations ou de Cauch, elles marchent bien. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de mobilité moléculaire parce que c'est rigide, ça marche. Si je prends une autre famille, je regarde les mêmes trucs, si ça marchait la relation tout à l'heure, j'aurais la courbe en pointillé bleu. Quand je varie la proportion de cet additif, vous voyez que mes 15C, ils varient comme ça. Alors cette fois, ça ne marche plus du tout. Vous ne pouvez pas considérer que nuE est un facteur discriminant sur ces trucs. Sûrement, la densité de réticulation intervient, mais pas seule. Et pourquoi elle n'intervient pas seule? Parce que ce comportement, on a pu montrer qu'il faut le mettre en relation avec les mouvements de relaxation secondaire, ceux de rotation de ce groupe-là, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et donc, cette fois, K1C, il est relié à la mobilité moléculaire. Ça, ce n'était pas ce que les théories attendaient. Et puis, si je regarde d'autres familles, eh bien, j'ai pris des structures chimiques bien différentes. Vous voyez que là non plus, dans cette famille où je peux varier la longueur de ce groupe-là, la présence de l'un ou l'autre de ces noyaux aromatiques, soit téréphtalique, comme disent les chimistes, c'est-à-dire qu'il peut tourner sur lui-même, soit isophtalique, où il doit balayer un beaucoup plus grand volume, eh bien, on voit que quand je reporte avec la densité d'enchevêtrement, ça ne marche pas du tout. La courbe bleue du comportement moyen de tout à l'heure, elle n'y est même plus. De toute façon, elle allait dans l'autre sens. Et là, à nouveau, eh bien, on sait relier ça à ces mouvements de relaxation secondaire, au fait près que ces mouvements-là sont fortement coopératifs au sens où je l'ai défini tout à l'heure, pas les autres. Puis si je prends une autre famille de ces polyamides, eh bien, vous voyez que là encore, ça ne marche pas plus qu'avant. Vous avez retrouvé la courbe bleue, mais le comportement clonal n'est pas le même. La raison, c'est toujours la même, cette mobilité moléculaire. Et si vous avez besoin de vous convaincre, quelle que soit la famille, que la résistance au choc augmente quand on a des groupes térés par rapport à des groupes isophtaliques, eh bien, vous avez toutes ces évolutions dans tout un tas de séries. Donc, la résistance au choc, ça a à voir avec les enchevêtrements de façon incontestable, comme tout le monde le sait depuis 20 ans, mais ça a aussi à voir avec la mobilité moléculaire à laquelle on a prêté une attention beaucoup plus récente. Deuxième idée à laquelle on pourrait essayer de tordre un petit peu le cou, il est dans tous les textbooks sur la rupture des polymères, on dit, eh bien, d'après les théories de reptation, quand je reporte K1C en fonction de la longueur de chaîne, dès que mes chaînes ont une longueur qui est à peu près 8 fois la masse en enchevêtrement. J'ai un quincé qui ne varie plus et qui donc est représentatif de mon système. Donc pour caractériser quincé, il faut toujours prendre des chaînes assez longues. Et comme cette quantité varie suivant les polymères, ben ça peut aller de 17 à 147 suivant les systèmes que l'on veut. Et bien ça, c'est une idée, même quand on se place dans ces conditions, c'est une idée qui est fausse, comme on peut le voir, enfin elle est en partie fausse. C'est-à-dire que on a pris ici, dans un type de polymère donné, on a pris deux longueurs de chaîne différentes qui satisfaisaient la condition critique que l'on avait. Ce qu'on voit, c'est que les gens ont raison de dire que c'est indépendant de la masse molaire à basse température, parce qu'à basse température, les craquelures, elles résultent directement de la cassure, de la rupture de liaison covalente. Et donc, quelle que soit la longueur de liaison, ça ne va pas jouer. Mais par contre, si je vais du côté des plus hautes températures, je vois que j'ai une différence considérable de comportement. Et si je veux l'analyser, eh bien, je dois me pencher sur le sort des fibrilles que je vous ai montrées tout à l'heure. Ces fibrilles, elles sont étirées. Elles vont résister à cet étirement par l'intermédiaire des points d'enchevêtrement que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, de la même façon que vous aviez un plateau caoutchoutique plus ou moins grand, eh bien, vous avez une stabilité de ces fibrilles qui est plus ou moins grande lorsque le nombre d'enchevêtrement par chaîne est importante. Et c'est comme ça que vous avez ce comportement. Puis après, vous tendez vers la température de transition vitreuse. Donc, à la température de transition vitreuse, votre polymère il va de toute façon devenir un chewing-gum. Donc, à ce moment-là, évidemment, vous perdrez en propriété de résistance. Et puis, si je prenais un autre polymère, je crois que le temps, je dois le manger vite quand même. Non, ça va ? Ouais, 5 minutes. Donc, si je prends un autre polymère, ici le polycarbonate, celui qui sert à faire, par exemple, les boucliers transparents des casques de moto ou des équipements de CRS, comme vous voulez. J'aime mieux les casques de moto. Vous voyez que c'est pareil. Vous avez une sensibilité à la masse molaire parce que vous avez stabilisation des fibrilles dans la gamme de température. Et ça, c'est vrai pour tous les polymères amorphes suffisamment fragiles que vous voulez. Alors, troisième point, et je crois que le 5, c'est mon dernier point avant les conclusions, je voudrais reprendre l'exemple cette fois des réseaux thermodurcissables. Les réseaux thermodurcissables, c'est les polymères dont vous entendez parler, par exemple, pour constituer des parts des nouveaux Airbus. Donc, ce sont des polymères avancés, ce sont des réseaux. Alors, si j'avais le temps d'entrer dans le détail de la structure chimique, je vous montrerai ça. En fait, il suffit de regarder ça. Ce sont des réseaux plus ou moins parfaits. Et donc, tout le monde qui a étudié des réseaux dans le passé sait que le quincé de réseaux tridimensionnels comme ça est très mauvais. C'est-à-dire que tous ces polymères, ils sont fragiles sur toute la gamme de température d'usage. Et par conséquent, il faut, bien sûr, si vous pensez aux applications, en particulier à celles que j'indiquais pour l'aéronautique, il faut arranger ça. Alors, une façon d'arranger ça, il y en a plusieurs. Une première façon, c'est de mettre des particules de caoutchouc, mais ça n'intéresse pas beaucoup les gens, parce que le module Young va diminuer. Une autre façon, c'est de mettre des polymères thermoplastiques, mais ça n'intéresse pas EADS, parce que ceux qui marchent, ils coûtent très cher. Une autre façon toute simple, d'inspiration moléculaire, qui est le résultat de ce qu'on avait compris de la mobilité, c'est d'avoir dessiné des petites molécules comme ça, qui sont un peu mimétiques du réseau, et qu'on a dessiné en telle sorte qu'elle soit miscible avec les monomères avant de faire le réseau, et que quand on fait la réaction de polymérisation, eh bien, ils vont se ségréger en microdomaines. Si bien que par rapport à un diagramme comme ceux que vous avez, que je vous ai montré rapidement, ça c'est une résine pure qui évolue en fonction de la température, ça c'est sa transition vitreuse, ça c'est sa relaxation secondaire, eh bien celle que j'ai dessinée là, avec ces nano-clusters, elle présente en fait deux températures de transition vitreuse. Et la seconde, qui est la signature de la séparation de phase des domaines ségrégés que je vous ai indiqué ici, eh bien, c'est elle qui va vous amener de la résistance au choc. Et si vous regardez sur ces systèmes, par rapport à notre résine époxyamine qui avait un K1C de 0,6 ou 0,7, donc qui était nul en résistance au choc, eh bien, sans avoir changé les process, sans avoir changé non plus les modules en dépit de l'addition de ces petites molécules, juste en ayant abaissé la température de transition vitreuse, je me retrouve avec une valeur de K1C qui est relativement grande. Et ce qu'on a eu le bonheur de faire, après avoir mis en évidence tout ça dans le cas des époxyamines, eh bien, c'est que ça a marché aussi avec les thermodures pour application ophtalmique, les thermodures haute indice, et avec nos collègues de Dessilor, eh bien, on a pu prendre un brevet sur la même idée dans le cas de polymères avec riches en soufre. C'est pour ça que ce sont des thiouréthanes avec des indices de réfraction de l'ordre de 1,6, 1,7, ce qui veut dire que vous pouvez avoir des verres de lunettes qui vont être tout petits. Et ça marche pareil. Alors, dernier cas dont je voulais vous parler, celui des réseaux hybrides métacrylate-méthyl-nanosilice. Alors là encore, si vous aviez le temps de regarder la chimie, vous pourriez voir comment on s'y prend. On part de particules de nanosilice que l'on a fabriqué nous-mêmes, qui ont des silanols de surface, on greffe des silanes, des chlorosilanes, donc on fait du greffage, et puis on a choisi nos chlorosilanes en sorte qu'ils aient une double liaison, donc on pourra les copolymériser avec du métacrylate de méthyl. Bref, on obtiendra un réseau tridimensionnel de ce genre-là, avec des bras métacrylate de méthyl, et puis des particules de silice. Alors ces systèmes, ils sont intéressants pour faire des vernis de surface, toujours par exemple pour les lentilles de lunettes, mais ils ont un très gros défaut, c'est que ce sont des réseaux, le concept un réseau, c'est fragile, ils le vérifient parfaitement et on trouve des valeurs assez déplorables de K1C avec ces matériaux qui sont donc très, très fragiles. Et donc, ils ont des intérêts par ailleurs. Comme les particules ont été bien dispersées, même si elles ont une taille de 100 nanomètres, nos amis, les ophtalmistes, ils concèdent que nos matériaux ils sont transparents, parce que ces particules sont parfaitement bien dispersées, il n'y a pas d'agrégat important, donc ils ont beaucoup d'intérêt, sauf qu'il faut, il faut se débrouiller avec pour améliorer les propriétés. Et c'est là que ça tombe bien, puisqu'on arrive à la fin de ces présentations. On va refaire un clin d'œil à ce qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire comment s'en sortir. Est-ce qu'on peut les bricoler chimiquement pour augmenter K1C, comme dans le cas de tout à l'heure? Malheureusement, la réponse est non. Donc si la chimie ne nous aide pas, il faut trouver une autre voie. Et l'autre voie qu'on a trouvée, c'est la voie biomimétique. Ce matin, on vous a parlé de tout un tas de coquillages divers et variés. Moi, pour ne rien vous cacher, le coquillage que je préfère, c'est l'huître. Pas tellement pour en étudier la physique, d'ailleurs, que pour les manger. Mais si on étudie la physique, qu'est-ce qu'on voit? La nacre de l'huître a des propriétés remarquables de résistance au choc parce qu'elle résulte de l'assemblage de couches dures de carbonate, de calcium, comme on vous a dit ce matin, et puis de couches très fines de matériaux dissipatifs. Eh bien, on a dit, puisque nos hybrides, alors c'est les petits objets rouges ici, les gros sandwichs rouges, ils ne veulent pas être résistants au choc, on va les séparer par des couches fines de polymères qui joueront le rôle du second composant, et puis on va les soumettre à des essais de choc. Et c'est la jolie petite figure, même si le rendu n'est pas très bon ici, où vous avez, c'est toujours la force en fonction du déplacement dans un essai de déformation 3 points. Vous voyez qu'au début, à partir du point où on est parti, on avait fait notre petite entaille, on charge l'échantillon, cette couche cède, on charge la deuxième couche, on a eu en fait déviation de fissure le long de notre couche mince, ça repart ici, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait la rupture finale de ce sandwich. Et donc, comme dans la nacre de l'huître, eh bien, si vous regardez en énergie ce qu'on a dépensé avant d'arriver à la situation quasi catastrophique D, où vous voyez bien que la fin de notre sandwich, la fin est proche, il n'y a plus que deux couches qui tiennent ici, ou même peut-être une seule, donc la force à développer pour déformer est faible, eh bien, on a fait un matériau excessivement dissipatif. Donc, on l'a endommagé très progressivement. Il finira bien sûr par se rompre, ça c'est sa vie, mais avec une dépense d'énergie considérable, donc un déplacement sans commune mesure avec ce qu'aurait été la courbe de déplacement d'une seule couche de nanohybride. Donc l'approche biomimétique dans ce cas-là marche parfaitement et vous en avez une illustration. Alors, c'est mon dernier transparent, celui de conclusion. Ce que j'espère avoir fait rapidement, c'est de vous convaincre que on peut aller on peut caractériser les propriétés de rupture grandeur macroscopique par une approche moléculaire. Ça marche d'autant mieux si on ne compare pas les ânes et les cochons, comme je disais tout à l'heure, mais si on se place dans une même famille, on va dire les équidés, en train de comparer un âne, un poney, etc. Bon, ça marche d'autant mieux. Donc, l'effort de synthèse chimique qui permet de baser les analyses sur des séries de composés qui se ressemblent dans les propriétés évoluent progressivement, j'espère vous avoir convaincu que c'était la voie qui nous avait permis de comprendre des comportements. Et une fois que ces comportements sont compris, eh ben, ça ne nous suffit pas. Ce qu'on aime bien, c'est du coup déboucher sur des voies utiles, des solutions originales en vue du renforcement des matériaux. Alors, je ne vais pas vous égrener le nom de mes collègues, que je voudrais remercier. Ceux qui sont en rouge, ce sont mes anciens thésards qui ont contribué à ce travail. Et ceux qui sont en bleu, ce sont de vieux collègues qui se sont, vieux ou moins vieux d'ailleurs, qui se sont intéressés à cette étude avec moi. Et puis, pour terminer, bien sûr, je vous remercie de votre attention.